pas trompe souvent que je dise le matin, parce que je suis habitué de prêcher le matin, mais cet après-midi, c'est une joie de vous recevoir, les invités, ceux qui sont ici avec nous pour la première fois. Et notre message, évidemment, comme vous avez pu l'entendre, est celui de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a quitté son trône de gloire pour venir sur cette terre et par son sacrifice à la croix, nous a donné le salut parfait, le salut complet. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de le recevoir comme on reçoit un cadeau à Noël ou n'importe quel temps quand c'est notre fête. C'est aussi simple que ça. Les hommes, des fois, ils mettent toutes sortes d'embûches. Mais Jésus a dit, non, non, celui qui croit en moi, celui qui obéit à ma parole, et sa parole est bien, c'est la Bible, c'est lui qui sera mon enfant. Et lorsque je reviendrai, ou lorsque il meurt, il a la vie éternelle. Mais, ce matin, à ce après-midi, avant d'aller plus loin dans le message, j'ai pensé à quoi je pourrais raconter, parce que souvent les histoires de Noël, on les connaît tous, et ça m'a amené à voir un homme dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui a été réputé pour sa grande foi. Et son nom, c'est Abraham. Abraham, c'est un homme pareil comme vous et moi, c'est un être humain. Il avait ses forces, il avait ses faiblesses. Et ce qui est important dans la vie d'Abraham, c'est que Dieu lui a fait des promesses, mais une très grande promesse. Et c'est ça que je veux qu'on regarde ensemble cet après-midi. Dieu nous offre beaucoup de promesses. Des promesses que je qualifierais de merveilleuses. Toutes ces promesses-là sont dans sa parole, la Bible. Et c'est ce qui arrive. On n'en profite pas. Hein, la semaine passée, j'ai dit, c'est comme être millionnaire, avoir un livret de chèques puis pas s'en servir. On a toutes les promesses du Seigneur dans sa parole, mais on ne s'en sert pas. Premièrement, c'est rare qu'on la lit. Alors, comment est-ce qu'on pourrait découvrir les promesses de Dieu? Et ça, ça nous amène à penser souvent que Dieu ne répond pas à mes prières. Voyons, je demande de quoi, puis il ne me répond pas. Pour ensuite en venir à douter que Dieu désire vraiment travailler dans nos vies. Donc, si on veut des réponses à nos prières, si on veut croire que Dieu nous entend lorsqu'on prie, mais on doit, c'est-à-dire, demander à Dieu des choses qui sont premièrement enracinées dans sa parole. Certains, vous allez me dire, moi, j'aimerais ça gagner des millions, c'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible que d'acheter de la loterie, c'est quelque chose que Dieu veut pour toi. Vous avez juste à regarder le film Les Navigateurs, vous allez voir que c'est bien plus trouble gagner que de perdre. Faut demander des choses qui sont enracinées dans la parole de Dieu et qui sont selon sa volonté. La volonté de Dieu. Et le passage clé cet après-midi, c'est dans Genèse 12. Vous allez tous avoir les versets qui sont au PowerPoint. Puis le petit livret que j'ai ici. Il y en a-t-il qui ont reçu le petit livret? S'il en reste, levez la main, on va aller vous emporter un. Ça va nous faire plaisir. Tous les passages sont écrits. Donc, vous allez pouvoir lorsque vous serez rendu chez vous, allez vérifier vous-même si vous avez une Bible. Et ensuite de cela, bien, demandez au Seigneur de vous faire comprendre ou de venir voir, soit moi ou un des anciens ici, et puis on peut vous aider certainement à mieux comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, dans Genèse 12, les versets 1 à 3, on peut lire, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Avant de poursuivre, on va juste se courber. On demande au Seigneur de nous éclairer. Père éternel, c'est avec beaucoup de tremblement cet après-midi que je m'avance devant toi, Seigneur Dieu, avec cette parole. Ta parole, Seigneur Dieu, ton testament, pour être capable, Seigneur, de bien partager avec tous ceux qui sont ici ce que ta parole veut nous enseigner, ce que toi, Seigneur, tu as déjà écrit pour nous. Et Seigneur, si notre foi est défaillante, puisses-tu la raviver. Que l'on puisse, Seigneur, à la fin, être réjoui de cette grande promesse que tu as fait un jour à un homme et à une femme qui ont péché dans le jardin d'Éden, soit la promesse d'un sauveur bien-aimé. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. La Bible, vous savez, c'est une compilation de toutes les promesses de Dieu. Il n'y en a pas ailleurs. Elles sont toutes là. Mais la question qui revient toujours, c'est est-ce que Dieu répond à mes prières? Hein? On se demande, Dieu, c'est pas quelque chose que je peux toucher. Mais à quelque part, on croit tous à un Dieu, mais c'est qui ce Dieu-là? C'est-tu le bonhomme en haut? C'est-tu quelque chose, la mère nature? C'est-tu... Non, le Dieu de la Bible, c'est pas eux autres. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le papa du ciel de tous ceux qui ont cru en lui, de tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est pas un Big Bang qui a créé la terre, les univers et ces choses-là, ça prenait une puissance, une toute puissance surnaturelle, soit celle d'un Dieu tout-puissant, qui est notre Dieu créateur, Dieu le Père. Il arrive souvent que nos requêtes de prière ou nos demandes au Seigneur ne sont pas selon sa volonté. Ou bien, elles n'ont pas de fondement. Et pourtant, l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, au chapitre 5, versets 14 et 15, « Nous avons auprès de lui cette assurance. » Jean parle à des chrétiens. Il leur dit, on est dans le doute, non, il dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, » n'oubliez pas ce bout-là, là. Selon sa volonté. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. La vie d'Abraham, c'est un bel exemple de la capacité, des capacités, du pouvoir de Dieu à tenir ses promesses. Et lorsqu'on examine l'alliance inconditionnelle que Dieu a faite avec Abraham, on peut apprendre la valeur de s'appuyer sur Dieu. C'est pas mon compte de banque que je m'appuie dessus. C'est pas ma richesse ou quoi que ce soit que je m'appuie dessus. C'est pas sur ma femme que je m'appuie dessus. Je m'appuie sur Dieu. Je lui fais confiance. Et je veux observer les observer sa parole, la parole de Dieu. Mais je sais qu'un jour, si je manque à cela, je vais devoir expérimenter les conséquences négatives qui vont arriver. Et c'est ce qu'Abraham a vécu. Il y a des bouts dans sa vie où ça va bien, il marche exactement selon ce que le Seigneur lui a demandé. Mais vous allez voir, on va voir tantôt des bouts de temps où sa foi, elle a comme... Ça nous ressemble-tu un petit peu?
Oui.
Oui, hein? Parce que des fois, on est comme, wow, on est sur le high, on va dire comme on dit. Mais il y a des fois que, notre foi est plus lourde. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, cet après-midi avec Abraham. Premièrement, les promesses de Dieu sont toujours énoncées clairement. Dieu ne dit pas des choses à l'envers. Dans le brouillard. Notre Père du ciel ne nous donne jamais des directions qui ne sont pas claires, qui ne sont pas certaines, qui sont incertaines, ou des directives qui nous demandent de comprendre ce qu'il veut que nous fassions. Josué, c'est un homme dans l'Ancien Testament qui a vécu cela. Hein? Le Seigneur lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». Regarde pas combien d'hommes que tu as pour combattre. Regarde pas comment ça va être difficile pour aller dans la terre promise. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. Et le Seigneur dit, c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage, en agissant fidèlement. Hein, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'as prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et ça continue verset 8. Et au verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre. Fortifie-toi. Prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dieu est avec nous. Lorsqu'on obéit à sa parole, lorsqu'on croit en lui. Deuxièmement, c'est les promesses de Dieu viennent avec des directives précises. Essaye pas de changer le plan de Dieu. Dieu te donne déjà des directives qui sont précises. Le Seigneur ne veut pas qu'on marche dans l'obscurité. On peut déjà marcher en noirceur. Surtout en campagne, quand il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas rien. Là, il fait noir en bibitte. Et c'est pourquoi Dieu a promis qu'il va nous instruire et qu'il va nous guider tout au long du chemin. Et on voit ça dans le psaume 32 au verset 8. « Je t'instruirai, dit Dieu, et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, je vais avoir mes yeux sur toi. » Hein? C'est ce que Dieu dit. Hein? Il va être là pour t'instruire. Dans le Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Hein? Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Il y a Genèse 12 où on voit que Abraham a fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Hein, il a parcouru le pays jusqu'à Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. C'est ce que Dieu lui avait demandé. Troisièmement, nous devrions chercher les conseils du Seigneur dans nos temps d'adoration personnelle et de méditation sur la parole. Lorsqu'on prie, lorsqu'on prend, comme notre frère Serge le dit tantôt, un pain quotidien et qu'on médite sur ce qui a été dit, eh bien, on a le privilège de chercher le Seigneur et sa direction. Pas un GPS. Dieu nous dit où aller. Dieu nous dit comment faire. Le temps qu'on passe dans la prière et dans la méditation de sa parole, c'est toujours du temps qui est bien passé. Genèse 12, 7, l'Éternel dit à Abraham, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un autel à l'Éternel. Hein? Puis après ça, on voit un peu plus loin qu'il a invoqué le Seigneur. Donc, bâtir un autel, ça avait un sens d'adoration. Ça faisait partie de faire passer Dieu en premier dans une réussite. Et ensuite, il a invoqué le nom du Seigneur. Ça, c'est prier. Quatrièmement, quand on change de direction sur le chemin de Dieu que lui montre, hein, on dit, « Hey, Seigneur, c'est pas le bon chemin. Vous, vous connaissez le bon chemin. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doute de sa parole. On y croit pas. Faire à notre tête nous place en dehors de sa volonté. Et ça amène qu'à des ennuis. Genèse 12, verset 9, regardez bien ce qui se passe. Abraham continue à marcher, il s'avance vers le midi. Et là, il voit qu'il y a une famine dans le pays. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il change de direction et il se dirige en Égypte. Dieu, il n'a pas dit d'aller en Égypte, Dieu, il a dit d'aller là où il devait aller. Mais il y a une famine, mais il dit non, je n'y vais pas. Voilà en Égypte, à la place. Et là, en Égypte, il y avait une... Il avait peur. Il a eu peur parce que, regardez bien ce qu'il dit au verset 11, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Et quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront. » Là, il a eu peur. Et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur. Il avait confiance en Dieu, hein? Pas en tout. Dis que t'es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Dieu lui avait donné des directives claires, précises. Il a montré le chemin, il l'a instruit. C'était passé. Il y a une petite épreuve qui arrive. Il change le plan de Dieu. Et ça nous arrive à nous aussi. La moindre petite épreuve qui arrive dans nos vies, on est prêt à tout chambarder au lieu de suivre exactement ce que Dieu nous demande. Ça, c'est à ne pas faire parce que le trouble commence là. Ensuite, le Seigneur renouvelle ses promesses parce qu'il veut qu'on les suive. Hein, on a des temps, des fois, qui sont difficiles. Et souvent, on se l'attendait pas. Et là vient le questionnement dans nos esprits. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Et puis, regardez bien ce qui s'est passé avec Abraham. Et on a ici de Genèse 15, verset 1. Dieu a dirigé Abraham. Dieu lui dit qu'il va avoir une postérité incroyable. Puis Abraham, il est rendu à 100 ans, sa femme à 90. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Il est trop vieux pour avoir des enfants. Bien trop vieux. Tu ne m'as pas donné de postérité, il dit au verset 3. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. C'est-à-dire que là, il y a eu une histoire avec sa servante, la servante de Sarah. Une femme, je pense que c'est une égyptienne, une païenne. Quoi avec? Il a eu un enfant, Ismaël. C'est pas lui qui va être mon héritier. Comme c'est là, ça a l'air que ça va être lui, mais ça ne tient pas de bout. Et là, au verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ah, es-tu bon? Ah oui, grande ma postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans nos temps de faiblesse, dans nos temps où ce que on se sent le plus démuni, le Seigneur est là pour nous encourager. Ensuite, chose à ne pas faire aussi, c'est d'écouter les mauvais conseils de qui que ce soit, parce qu'il y en a qui sont prônes à nous donner des mauvais conseils. Éviter d'être imprudent fait que ça peut nous amener à ignorer les promesses de Dieu. Et ensuite de ça, à se détourner de sa volonté. Ignorer ce que Dieu a promis et agir à notre guise en faisant le contraire de ce que Dieu demande fait en sorte qu'on va en subir les conséquences. Abraham, dans le bout où ce qui avait manqué de foi, il dit, sa femme est trop vieille, elle ne peut pas concevoir. Il va vers la servante de Sarah, qui s'appelle Agar, et elle tombe enceinte. Et elle lui donne un enfant. Et à partir de ce moment-là, Agar s'est mis à regarder Sarah avec mépris. La jalousie, hein? Au lieu de s'appuyer sur ce que Dieu avait promis, je vais t'en donner une postérité, puis elle va être grande. Non, il a fallu qu'il aille ailleurs. Et on en vient au septième point ici, qui est l'accomplissement des promesses du Seigneur peut nous sembler impossible de notre point de vue. C'était impossible pour Abraham, lui à 100 ans, sa femme 90 ans, d'avoir un enfant. En tout cas, j'en ai juste 66. Puis ma femme, je ne dirais pas, parce que les femmes n'aiment pas ça. Tu es un petit peu plus jeune que moi. Mais, on n'aura pas d'autre.
Non.
On n'aura pas d'autre. Non. Sarah s'est moquée de Dieu. Abraham, dans son cœur, il dit, voyons donc, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Et là, Dieu lui dit, ta femme, Sarah, va t'enfanter un fils l'an prochain. Son nom, ça va être Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Dieu a accompli une promesse qui semblait impossible pour Abraham. Combien de promesses impossibles à mes yeux, à vos yeux. Combien de fois on se décourage parce que ça n'arrive pas comme on veut. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Il ne faut pas sous-estimer le Seigneur. Si on est obéissant à la parole de Dieu, si, même si la chose nous semble impossible, Dieu va garder sa parole. Et il versera plus de bénédictions qu'on peut même imaginer. Huitièmement, l'accomplissement des promesses de Dieu peut nous obliger à faire quelque chose qui semble contradictoire à ce qu'on pense. On va juste passer un petit peu. Je ne sais pas qui a monté la fournaise, mais il fait chaud ici. Imaginez-vous ça. Isaac vient au monde. C'est le fils de la promesse. C'est lui qui est censé avoir une descendance qui va jusqu'à Christ. Et là, un bon jour, Dieu lui dit, « Prends ton fils Isaac, amène-le à tel endroit, prépare du bois, bâtis un autel, puis offre-le en sacrifice pour moi. » Un fils, celui de la promesse, celui qui était tant attendu, Dieu lui dit, garde, tu vas me l'offrir en sacrifice. Puis ça, on voit ça dans Genèse 22. Après ça, on peut lire que, je pense que vous l'avez, les grains. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Il n'a même pas posé de questions. Mais ça a dû travailler dans sa tête. C'est un être humain, vous ne l'oubliez pas, Abraham, ce n'est pas un superstar un super-héros comme on voit des bonhommes. C'est une personne, un être humain, excusez-moi. On a tous son parent de fils unique. Prends-le, bâtis un hôtel, bouche du bois, offre-le en sacrifice. C'est une préfiguration de Jésus qui était le Fils unique de Dieu qui est venu sur la terre et qui s'est offert comme sacrifice parfait pour le salut de tous les hommes qui croiraient en lui. Et Abraham, pour ce qui est d'Isaac, n'a pas dit un mot. Il a dit, je vais faire ce que tu as fait. Et comme neuvième point, c'est qu'on peut dire, c'est que l'accomplissement des promesses du Seigneur peuvent exiger souvent d'abandonner quelqu'un ou de se priver de quelqu'un ou de quelque chose qui est très cher pour nous. Et là, dans Genèse, on parle du Fils unique, le Fils de la promesse. Isaac. Même si le choix est parfois coûteux, ça nous coûte de quoi? On va perdre quelque chose. Faire ce que Dieu nous demande de faire, le laisser aller. Laisser aller les choses qu'on apprécie le plus, c'est ce que nous avons à faire. C'est ce que Dieu demande de faire. Dans Genèse 22, verset 2, on peut lire, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, un sacrifice, sur l'une des montagnes que je te dis. » C'est affreux, hein? Mais inquiétez-vous pas. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est certain. C'est ce que Dieu nous dit, le Seigneur nous dit dans sa parole. Il ne demandera absolument rien qui est au-dessus de nos forces. Mais on peut quand même comprendre pourquoi que Abraham a été appelé dans le Nouveau Testament, dans le livre aux Hébreux, un héros de la foi. Et c'est ce genre de foi-là qu'on doit travailler à avoir. Je ne suis pas encore rendu là. Mais je sais que depuis 82, je suis sauvé. Là. Depuis ce temps-là, là, ma foi elle a grandi. Je suis plus au même point. J'ai changé de direction pour, au lieu de m'en aller vers une direction inconnue, je m'en vais vers une direction que Dieu m'a promis. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Parce que Dieu est bon. Quand vient, on arrive au dixième point, qui est la plus grande promesse, celle de Zohar. C'est ce qu'on va fêter dans 2-3 jours. La naissance de Jésus. Aujourd'hui, en 2020, bientôt, la fête, elle a pris un autre tournant. C'est plutôt une fête commerciale. Vous pouvez travailler dans le monde du détail. Et puis, c'était pas imaginable qu'est-ce qu'on faisait pour se préparer à la fête de Noël. Et combien de fois on s'est arrêté pour penser, pour réfléchir à ce que cette fête-là, ce qu'on fête à cette naissance-là du Fils de Dieu, représenter pour toi. La promesse d'un sauveur. Quand vient cette période des fêtes-là, la vieille histoire de l'incarnation de Jésus, les cantiques des anges, l'étoile qui guida les mages, tout ça est dans nos pensées. En tout cas, j'espère. Et chaque fois, l'histoire de la naissance de Jésus nous semble aussi fraîche et aussi belle que lorsqu'on l'a entendue pour la première fois. Je ne demanderai pas de lever les mains, là. Mais c'est-tu longtemps que vous n'avez pas entendu l'histoire de Jésus comme un matin, comme après-midi? C'est une histoire qui ne vieillit pas. Mais son sens perd vraiment de ce que ça veut dire. Vous savez, l'arrivée d'un sauveur a été prédit. Ésaïe 7, verset 14, dit ceci: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et ensuite, un peu plus loin, dans Luc, chapitre 2, verset 7, ça arrive. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Une naissance qui a été annoncée d'avance, qui a été prédite. Ésaïe, encore, chapitre 7, verset 10 à 14, nous dit, à travers l'histoire qui nous est racontée là, au verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de la. Les Juifs aujourd'hui qui ne croient pas en Jésus, ils ont manqué quelque chose dans leur Ancien Testament. Parce que la naissance de Jésus, elle a été prédite. Et gloire à Dieu pour nous, les chrétiens qui sont nés de nouveau, que l'on croit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, son Fils unique, a donné sa vie. Ce qui est triste de constater, c'est que certains sont tellement habitués d'entendre parler de la naissance spirituelle de Jésus que ça les étonne. Les enfants, là, d'année en année, on les ajoute des cadeaux. On dirait qu'on n'est pas capable de les impressionner d'année en année tellement qu'ils en voient tellement à la télévision qu'il n'y a plus rien qui les impressionne. Parce que la naissance de Jésus t'impressionne. Est-ce que tu y crois? C'est à se demander si le monde d'aujourd'hui considère comme vrai cet événement-là.
Mais elle est vraie. Et elle s'est accomplie.
De ce qu'on voit dans Matthieu, et vous lirez ces passages-là, vous l'avez écrit dans vos notes, Matthieu 1, 18 à 25, Luc 1, 26 à 28, qu'on en a lu des parties tantôt. Les deux évangélistes rapportent les mêmes faits. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est qu'il spécifie, il montre avec soin que Jésus est né d'une vierge par une conception surnaturelle. Ça va, naturel. Si Jésus serait mis au monde par les moyens naturels de la génération, imaginez-vous ça, là. Si Jésus serait mis au monde par les moyens naturels de la génération, si Joseph avait été son vrai père, Jésus n'aurait été qu'un homme. Pas celui de lui. Comme homme, ça veut dire qu'il aurait été le fils, un fils d'Adam. Fils d'une race déchue. Il n'aurait jamais pu devenir le sauveur d'aucun homme parce que la race humaine tout entière était tombée loin de la faveur de Dieu. On remarque aussi que Jésus a passé sa première nuit en dehors du ciel dans une crèche, imaginez-vous. Une mangeoire. Quelle condescendance. La toute-puissance, Dieu, reposait dans une crèche légèrement emmaillotée. C'est là tout un symbole. La toute-puissance a été enlevée à Jésus pour un temps, afin qu'il puisse, dans un corps humain, être aux prises avec toutes les tentations qui sont le fardeau de la chair. Et je vais terminer par la lecture d'un beau texte dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Je l'ai dit, je peux écrire là-dessus. Écrivez ça quelque part. Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 11. Paul dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà comment Dieu nous a aimés. Merci, Père, pour ce que tu nous enseignes cet après-midi. Merci pour Jésus. Merci qu'on se rappelle aujourd'hui, dans quelques jours aussi, cette naissance surnaturelle de ton Fils bien-aimé. Qu'on puisse, enfin, laisser les choses du monde derrière nous, qu'on puisse juste s'asseoir ensemble, en famille, avec les enfants, avec nos petits-enfants, qu'on puisse ensemble se rappeler cette merveilleuse naissance qui nous est racontée, comme on l'a vu tantôt dans Luc 2, mais qu'on puisse en même temps se réjouir du salut qui est encore disponible aujourd'hui. Dans Jean, chapitre 3, verset 16, Jésus dit à Nicodème, cet expert de la loi, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que toi, que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais que toi, tu aies, que nous ayons la vie éternelle. C'est comme ça que Dieu nous aime. Il s'agit juste de croire et de marcher ensuite. C'est ma prière pour chacun de ceux ici et celles qui n'ont pas cette relation-là avec Dieu. Oui, on vient peut-être d'un milieu où on nous a enseigné toutes sortes de choses. Souvent, c'est des choses d'hommes où on a voulu nous faire avoir plusieurs affaires pour être capable de mieux nous contrôler. Mais Dieu, ce n'est pas une religion. La religion ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. En Jésus.
De gris ici.
Ben oui, quand j'ai placé à 19, il y a longtemps passé, c'est rendu à 24. Ouais. C'est la chaleur, l'enthousiasme.
C'est ça. Donc, on va faire le dernier chant, bien fort, bien avec tout notre cœur. Et puis, après qu'on a fini ce chant, je vais demander au pasteur de donner les dernières directives pour le souper, puis probablement faire la prière avant le repas. Et puis, là, je vais mettre le monde à se lever et on va faire le début chrétien.